Bonjour à tous, vous êtes bien sur Hightech FM, il est 9h42 et nous sommes le 5 décembre et nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre sur le sujet de la robotisation du travail et l'intelligence artificielle. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Frédéric Lefebvre, directeur de la chaîne de production de Renault Automobile. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
De rien. Nous avons aussi la chance d'accueillir Yves Thibault, professeur de philosophie spécialisé en éthique.
Oui, bonjour à tous.
Michel Bertrand, salarié dans une entreprise agroalimentaire.
Bonjour à tous.
Nous avons aussi la chance d'accueillir Philippe Martinez, c'est le secrétaire général de la CFDT.
Bonjour, ravi d'être ici.
Et le docteur Christophe Delettre, chirurgien.
Bonjour et merci pour l'invitation.
De rien. Donc, bonjour messieurs, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent interagir avec nous grâce au Facebook de l'émission. Nous attendons vos questions. Pour initier ce débat, je vais donc vous poser la question suivante. Les robots sont-ils une chance pour l'homme? Monsieur Thibault, votre opinion?
Alors, les robots sont-ils une chance pour l'homme? Moi, je ne pense que non. Tout d'abord parce que prendre de plus en plus de place dans la société et leur vente augmente de 17% aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et par exemple, comme on a pu le voir encore hier au JT de 20h sur France 2, on a pu voir que certaines sociétés sont en train de commercialiser des jouets pour enfants. Et c'est des jouets donc, qui sont dotés d'une certaine intelligence artificielle qui permettent en fait de dialoguer avec l'enfant. Mais en fait, derrière ce jouet, on peut aussi écouter complètement les conversations au sein de la pièce où se situe le jouet. Et aussi de communiquer avec l'enfant par le biais de ce jouet. C'est-à-dire qu'on peut complètement hacker le système du jouet et demander par exemple à l'enfant d'ouvrir la porte de la maison s'il est tout seul. Donc non, moi je suis complètement contre ces intelligences artificielles et ces robots.
D'accord. Monsieur Lefebvre, une réponse?
Alors, bah, moi, c'est un domaine que, enfin, l'intelligence artificielle par rapport aux maisons, ça me concerne pas trop. Mais c'est vrai que dans mon domaine, donc la fabrication d'automobiles, c'est plus qu'une chance, c'est aussi un outil. Ça permet parce que d'augmenter la productivité par rapport à l'homme. Et un robot, bah, ça ne tombe pas malade, ça produit toujours, un peu de maintenance et ça marche tous les jours. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment utile pour nous. Ça permet de fournir une demande qui est en croissance en ce moment. Et donc, on n'a pas de charge salariale. Donc, ça nous permet vraiment d'améliorer notre coût de production.
C'est-à-dire qu'on est dans une société de consommation. Et du coup, vous voulez encore augmenter le rendement pour qu'on consomme encore plus grâce au robot?
Ah, bah, nous, c'est tout notre intérêt. Donc,
vous ne pensez pas qu'il y a une finalité à cette société de consommation, justement à force d'augmenter les productivités?
Ah bah, tant que les gens consomment, ça crée aussi, bah, du coup, s'il y a plus de consommation, il y aura toujours plus de demandes. Et qui dit plus de demandes, dit d'un côté plus de travail, et pour bah, de travail de, on va dire, de fabrication. Et d'un autre côté, une demande de fabrication des robots pour accompagner l'homme justement dans cette fabrication pour répondre à la demande.
Excusez-moi, monsieur Martinez, je vous sens contrarié par les arguments avancés par monsieur.
Oui, alors si on peut revenir à la question qui avait été posée, est-ce que c'est une chance d'avoir des robots munis d'intelligence artificielle qui sont capables de faire le même travail que nous, disons un milliard de fois plus en réfléchissant un milliard de fois plus vite que nous et qui sont pour certains capables de le faire beaucoup mieux que nous? On ne peut pas considérer ça comme une chance. Le travail, les emplois vont donc être supprimés dans de nombreuses entreprises, du milieu industriel. Et je ne pense pas que ce soit une chance pour notre pays.
Ah, si je peux me permettre, c'est une chance pour nous. Tout d'abord parce que les machines au sein des usines, comme moi qui travaille dans le secteur de l'agroalimentaire, toutes les machines viennent nous aider. Elles assistent l'homme. Du coup, ça nous permet d'avoir des hommes en meilleure santé. Tout en évitant les maladies, par exemple les tendinites, quand c'est des gestes assez répétés. Là, à cet endroit-là, on place un robot. Et du coup, ça nous évite tout ce qui est arrêt de maladie. Ça nous augmente la compétitivité. et ça nous permet d'élargir notre production au mondial.
Mais dans le domaine où ces robots sont plus vont être améliorés et vont devenir plus intelligents que l'homme, ils ne seront plus là pour assister mais pour remplacer. Il n'y a plus du tout besoin d'hommes à côté lorsque le robot est arrivé à cette puissance.
Si, puisque les robots vont créer de l'emploi, certes pour des...
Vous expliquez pas pourquoi.
Comment ça?
Pourquoi ils vont créer de l'emploi puisqu'ils sont plus intelligents et plus forts que l'homme? Il n'y a pas besoin d'hommes à côté du robot, il est tout seul.
On a besoin d'hommes pour créer des robots, mais pour assurer la maintenance, pour les programmes.
Les améliorer aussi après. Et puis il faudra toujours des postes pour. Par exemple, si on n'a qu'une seule usine où il n'y a aucun humain, seulement des robots, il faudra toujours quelqu'un pour faire la logistique et gérer tout le fonctionnement des robots. Et donc il y aura toujours besoin d'humains pour assurer ça.
Monsieur, je vais donc me tourner maintenant vers monsieur Delettre. Quel pour vous, dans un secteur complètement différent de l'industriel, dans la médecine, quels sont les avantages d'avoir un robot?
Alors moi je pense que l'intelligence artificielle et la robotique de masse, qu'on appelle aussi la cobotique, est une réelle avancée pour nous. Moi je vois les effets donc, positifs à travers plusieurs domaines, donc que ce soit le domaine médical, que ce soit le domaine de la santé, que ce soit le domaine social ou environnemental. Donc par exemple pour mon cas, moi je suis chirurgien, donc je pratique de nombreuses interventions tous les jours. Et des robots sont très utiles lors des assistances pour les opérations chirurgicales délicates. Les robots sont programmés à faire certaines tâches spécifiques. Par exemple, à l'inverse de l'homme, ils ne vont pas trembler. Donc pour une incision ou pour une piqûre, c'est beaucoup plus pratique. Et on a relevé que 90% des opérations, des interventions, sont désormais réussites grâce à l'intervention et à l'assistance des robots.
Qu'on aille petit à petit en fait clairement vers une immortalité de l'homme grâce à tous les progrès qu'on fait en santé, et du coup on va bientôt ne plus mourir finalement.
Bien, je pense que tout le monde a les mêmes chances face à la survie, donc c'est une réelle avancée pour le domaine médical de pouvoir maintenir des personnes en vie.
Ça dépend de leur état quand même.
Donc ces systèmes sont présents que dans les pays développés, donc seulement dans les pays riches, et ça va accentuer donc, les inégalités partout dans le monde, d'avoir un progrès aussi énorme de la médecine, alors que la médecine est à peine existante dans certains pays du monde.
C'est un problème mondial, mais c'est également ce que nous essayons de mettre en place dans tous les pays. C'est notamment le cas pour les prothèses bioniques, qui coûtent extrêmement cher de nos jours, et on est en train d'essayer de les mettre... d'une façon équitable pour tout le monde, que tout le monde puisse en avoir une, toutes les personnes handicapées puissent en avoir une pour aller vers la fin du handicap, tout simplement.
Mais donc plus la médecine va évoluer, plus ça va être compliqué d'avoir une égalité partout. Et donc si on invente des machines médicales aussi perfectionnées, tout le monde ne pourra pas les avoir. Et les inégalités ne pourront jamais cesser et vont continuer d'accroître
jour en jour. On met en place des systèmes pour que les pays sous-développés puissent avoir accès à notre médecine et donc à notre technologie, tout simplement.
Si je peux réagir, que ce soit l'industrie ou le domaine médical, on fait des avancées déjà pour aider nos populations à nous. Parce que si on attend que les autres pays nous rattrapent, que ce soit dans n'importe quel domaine, pour qu'il n'y ait plus d'inégalité, dans ces cas-là, personne ne fait plus rien et il n'y a aucun progrès de réalisé. C'est-à-dire que si nous, même si nous sommes plus développés que certains pays, je crois qu'on s'abstienne de développer de nouvelles choses, parce que ça pourra toujours aider d'abord nos populations, et après on pourra s'inquiéter d'instaurer une égalité en fonction des tarifs ou de répandre nos progrès dans les autres pays moins développés.
Si je peux me permettre, le fait de développer de plus en plus les machines permet aussi de créer de l'emploi, comme c'est votre principale question. L'emploi se crée grâce au développement, et ce dans n'importe quel pays. Parce que maintenant, nous voyons actuellement que l'ensemble des pays se met à vouloir développer les machines.
Apparemment, ce n'est pas le cas aux États-Unis, puisque depuis le début de l'importation des robots, ils ont perdu au moins 160 000 emplois dans l'industrie, d'après des chiffres officiels. Donc je ne pense pas que les robots puissent garantir un nombre d'emplois suffisant pour des pays, pour des grands pays comme les États-Unis par exemple, et la France qui vont devenir.
Ah, c'est au contraire, parce que les États-Unis commencent à produire des robots militaires et ces robots militaires ont besoin d'énormément de personnes, environ une quinzaine de personnes, pour juste commander un drone.
Je souhaiterais intervenir sur ce que dit mon collègue. Une étude effectuée donc, par des chercheurs allemands montre que l'augmentation et l'utilisation du robot industriel n'est pas forcément préjudice à l'emploi. Donc en fait, ça ne détruit pas d'emploi, mais ça augmente les inégalités entre les hommes.
Ah, je pense que si vous prenez une chaîne de production et vous, à la place d'opérateurs, vous mettez des robots, il y a clairement, et que même si vous engagez derrière des gens plus qualifiés pour faire la maintenance de cette chaîne de production, dans tous les cas, il y aurait moins d'opérateurs si la chaîne est robotisée. Donc ça ne crée pas de l'emploi.
Ça détruit l'emploi ouvrier, mais ça crée de l'emploi un peu plus qualifié, donc tels que des techniciens supérieurs ou tout simplement des agents de maintenance.
Même pour un robot qui remplace un, voire même deux humains sur un poste de travail, derrière, il faut une dizaine d'ingénieurs pour concevoir le robot. Il faut autant de personnes pour le fabriquer. Et après, il faut au moins une personne pour la maintenance. Il y a aussi ceux qui vont intervenir dans les usines pour monter les robots et s'en occuper tout le temps. Et...
Donc on est voué à faire de plus en plus d'études et à engager des gens de plus en plus qualifiés. Quoi.
Bah, des études, oui, il y aura des études poussées pour être ingénieur, pour fabriquer les robots, comme un simple bac ou bac plus 2 en agent de maintenance, ce qui est un niveau d'études pas encore, enfin dans la moyenne aujourd'hui, suffira pour assurer un emploi dans les prochaines années.
Et la personne qui a pas eu son bac, on lui dit quoi ?
Il faut faire une formation.
J'ai notamment lu dans un article, Monsieur Lefebvre va me dire si c'est bon ce que je dis ou pas, certains industriels proposaient des formations pour ne pas détruire l'emploi ouvrier, pour que les ouvriers tout simplement tout gagnent leur qualification et acquièrent un autre métier.
Lors de phases d'installation de robots de chaîne de production, on propose aux agents de fabrication une reconversion pour être agent de maintenance, pour assurer l'entretien des robots. Et ceux qui même n'arrivent pas à faire cette formation, il y a toujours une possibilité d'assurer le nettoyage des postes de travail pour les robots. Parce que ce soit un poste qui doit toujours être sans aucune poussière. Et donc même ceux qui n'ont aucun diplôme, on leur propose, en attendant de trouver un autre emploi, d'assurer ce travail-là. Des postes de production des robots. Ouais.
Monsieur, nous avons une question d'une auditrice pour elle. Elle nous pose cette question. Comment faire confiance à des robots avec qui nous ne pouvons pas communiquer ?
Je pense que dans tous les cas, même qu'on communique avec eux ou pas, on ne peut pas vraiment leur faire confiance à 100%. Ils peuvent réagir de façon... même si on les a bien programmés, etc., il y aura toujours un moment où ils vont réagir de façon aléatoire. Et au moment où ils vont réagir de façon aléatoire, si nous, on s'attache trop à eux, ils vont avoir une réaction qui nous paraît bizarre. Et de là, en fait, on va complètement... ça va créer un malaise dans la société si jamais il y a une incompréhension vis-à-vis de ça. Il y a un de mes collègues qui a écrit un livre, Monsieur Alexander, qui est russe, qui s'appelle Le Premier Cercle. Il parle justement de l'intelligence artificielle et en fait, il raconte dans ce livre que si on crée des robots, et c'est ce qui va soutenir justement ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, si on crée des robots le jour où il y a un dysfonctionnement de ce robot, l'homme est devenu tellement dépendant de celui-ci qu'il sera complètement désorienté et on courra à des scénarios catastrophiques qu'on peut voir dans les films de science-fiction.
Oui, justement, pour réagir, c'est ça, c'est quand les robots se rebellent ou font autre chose, ce n'est justement que de la science-fiction. Parce qu'ils sont créés, testés dans un laboratoire pendant plusieurs mois, et tout est peaufiné, amélioré avant d'être mis sur le marché. C'est-à-dire que quand un robot arrive sur le marché, il est performant, et tous les bugs ou petits problèmes qu'il y a eu à la création, ils ont déjà été réglés.
C'est-à-dire que là, vous êtes en train de me dire que n'importe quel produit qu'on met sur le marché n'a jamais de dysfonctionnement ?
Pour les robots.
L'intelligence artificielle.
Alors que maintenant, tout est tellement contrôlé qu'on ne peut pas se permettre de mettre en vente des produits qui peuvent être dangereux et qu'on n'est pas sûr à 100% de leur bonne fonctionnalité.
Tout à fait. Puisque les robots ne sont que... L'intelligence artificielle ne sont que des lignes de code, donc ils ne peuvent pas dysfonctionner.
Monsieur Bertrand, vous voulez rajouter quelque chose tout à l'heure ?
Oui, je voulais dire juste que d'abord la confiance que l'homme peut avoir pour les robots se fera grâce à un environnement où les robots seront de plus en plus présents. Et du coup, on va commencer à faire de plus en plus confiance, comme on le voit actuellement avec les voitures autonomes. Les personnes commencent tout doucement à laisser le contrôle à la machine. Et comme vous pouvez le voir, avec toutes les intelligences artificielles dans les véhicules, ça nous assure une sécurité, ce qui nous porte à avoir nous fait ressentir plutôt un sentiment de confiance envers cette machine.
Donc en fait, on va de plus en plus les laisser faire toutes les tâches quotidiennes. Donc on va bientôt plus rien faire du coup de nos journées.
Si je comprends bien. Si je peux continuer sur la confiance que vous dites que nous apporterons aux robots, vous comprenez qu'il est quand même difficile pour certaines personnes de faire confiance à un robot qu'ils n'ont pas conçu, puisque les personnes qui utilisent les robots ne sont pas forcément les mêmes qui ont les moyens de les coder et de les penser. On a vu encore aux États-Unis que des voitures autonomes grillaient des feux rouges. C'est difficile de faire confiance à des robots comme ça, même dans l'industrie, lorsque les gens qui vont travailler avec des robots, donc c'est-à-dire les personnes les moins qualifiées, comment peuvent-elles faire confiance aux robots qui travaillent avec elles alors qu'elles n'ont pas du tout conçu et ne peuvent pas connaître sa réaction s'il a une intelligence artificielle.
Si vous cherchez le problème de la confiance sur les inégalités sociales, sur les personnes qui sont un peu plus pauvres.
Je ne parle pas d'inégalité sociale, c'est juste le fait de ne pas avoir conçu le robot et de ne pas connaître comment il peut réagir.
C'est ça qui peut faire. Pour réagir à ça, enfin, la confiance, ça vient au cours du temps. Vous parlez de robots qu'on n'a pas conçus. Une personne que vous ne connaissez pas, en la côtoyant, au bout d'un moment, vous allez finir par lui faire confiance. Et les robots, c'est la même chose. Parce que si c'est sûr que si vous commencez à avoir un comportement réfractaire vis-à-vis des robots, que vous ne les laissez pas s'insérer dans notre société, les laisser faire les tâches pour lesquelles ils ont été programmés, c'est sûr qu'il peut y avoir aucune confiance qui se crée à mesure du temps. Et dans ces cas-là, on interdit ça comme on peut interdire d'autres choses et on laisse rien faire au final.
Je voudrais juste revenir sur la voiture connectée, vous en avez parlé il y a quelques minutes. Par exemple, la voiture connectée, c'est-à-dire qu'elle est d'intelligence artificielle, elle peut conduire toute seule. Mais c'est-à-dire que derrière, il faut savoir qu'il y a des grandes entreprises comme Google qui récupèrent toutes les données, c'est-à-dire qui récupèrent. Elles savent où vous allez, avec qui vous êtes dans la voiture, qu'est-ce que vous faites dans la voiture, elles savent toutes vous. Donc plus on va mettre d'intelligence artificielle dans notre quotidien, plus toutes ces entreprises-là vont pouvoir récupérer des données qui, moi, je pense personnelles et elles n'ont pas à savoir, même si vous avez rien à cacher. Et derrière, faire du business là-dessus, est-ce que vous êtes partisan de...
Après, c'est vrai, mais je me suis renseigné un peu et j'ai remarqué que certaines entreprises se mettent à mettre en place un accord. Ce qui nous permet de, si on souhaite, oui ou non, leur donner accès à nos données personnelles.
Moi, je pense qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus une intrusion dans la vie du consommateur.
Donc pour vous, l'intelligence artificielle n'a pas lieu dans la société ?
Bah, pas dans la vie privée.
Alors, dans ces cas-là, les caméras qui sont installées dans les carrefours et les ronds-points, pour assurer la sécurité, c'est pareil, elle nous filme et dans ces cas-là,
c'est la vie publique. Enfin, c'est dans la ville, mais je veux dire, des caméras qui sont chez, enfin, comme on va dire, Amazon font maintenant des caméras qui se mettent à la porte d'entrée pour que les livreurs viennent et posent le colis sans que vous soyez chez vous.
Ça, pour moi, c'est complètement. Si c'est votre porte d'entrée, c'est filmé par l'intérieur et vous êtes toujours privé à l'intérieur de la maison. Et dans ces cas-là, le téléphone qui vous est dans votre poche, il enregistre votre position, il sait partout où vous allez, et il sait sur quelle application vous allez, il sait ce qui vous intéresse, et c'est exactement la même chose.
Je suis pas pour le téléphone.
Donc oui, mais dans ces cas-là, vous supprimez le téléphone, vous supprimez la machine à laver, et on revient au Moyen-Âge.
Non, je refuse pas le progrès, bien sûr que non. La machine à laver, on peut la laisser. Le téléphone, il est très bien. C'est juste que le problème, c'est que je pense que les gens utilisent ces technologies-là à mauvais escient. Le téléphone, par exemple, c'est une intelligence artificielle qui permet normalement de rapprocher des gens, de pouvoir communiquer avec des gens qui sont à 10 000, 20 000 km. Sauf que quand vous regardez, à l'heure actuelle, les gens commencent à se servir du téléphone, on est tous ensemble là, entre amis, en train de boire un verre, et tout le monde est sur son téléphone en train de partager ce moment-là avec d'autres gens qui ne sont pas ici. Donc en fait, ils ne profitent plus du tout du moment présent, et c'est ce à quoi on va être voué avec l'intelligence artificielle. De plus en plus, les gens vont vivre à travers leur écran et ne vont pas vivre les moments présents, quoi. Je trouve que déshumanise complètement, là.
Au contraire de vous, puisque quand vous dites les personnes partagent le moment, mais le partage avec d'autres personnes dans le monde, ce qui permet de créer une sorte de lien virtuel avec d'autres personnes dans le monde. Et donc d'enrichir
virtuellement quoi du coup.
Pas forcément, parce que il existe de vraies personnes à travers ces personnes, ces profils virtuels.
Et vous les voyez qu'à travers des machines.
Et je voudrais continuer sur l'intelligence artificielle, qui est donc vouée à évoluer énormément. Au bout d'un moment, vous ne pensez pas qu'elle pourrait avoir un grave danger sur notre santé, qu'elle soit mentale ou physique, si elle vient à remplacer l'homme dans ses pensées, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de réfléchir puisque son robot quotidien pourrait tout penser à sa place et tout lui rappeler. Il n'a plus besoin non plus de se déplacer puisque son robot irait faire ses courses. À partir de là, quelle serait la vie de l'homme et sa santé physique pourrait rapidement se dégrader, en parlant déjà des problèmes d'obésité par exemple qui existent fortement dans le monde et qui pourraient s'accentuer.
Monsieur Delettre, vu votre domaine sur la santé.
Oui, évidemment. Alors bien sûr, on parle d'obésité, de manque de sport. Je pense que ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on a beaucoup de l'intelligence artificielle et la robotisation donc sont présents dans beaucoup de domaines et sont propices à beaucoup de domaines, notamment au milieu environnemental. On peut maintenant découvrir des nouvelles zones. On peut également nettoyer les marées noires. Et on a mis au point, notamment avec mon équipe, parce que je suis également membre d'un laboratoire de recherche, on a également mis au point un micro-robot qui permet d'utiliser une source d'énergie pour fonctionner naturellement, si je puis dire. Donc, il consomme une bactérie donc, qu'on appelle la marque Essence, et donc qui permet de consommer l'énergie chimique pour actionner le dispositif robotique. Donc c'est une véritable avancée, donc on n'a pas de point carbone, et on peut donc faire fonctionner des robots donc, qui sont utiles à plusieurs tâches, donc, notamment à la découverte et tout dans la santé donc, pour les opérations à l'interne.
Alors, je comprends pas du tout le rapport avec le fait que les hommes vont devenir obèses.
Ah oui. Alors, même si vous avez un robot qui va faire vos courses à votre place, qui affiche votre place, ça va pas vous empêcher de faire du sport. Hein. Si vous voulez le soir après le travail faire un jogging ou que ce soit.
C'est une question de motivation. C'est-à-dire que les gens, si oui, bien sûr, si les gens veulent faire du sport, ils vont faire du sport. Mais ouais, les gens qui de base ne font pas de sport, hein, avec le fait d'aller faire leurs courses, de marcher dans le supermarché, leur fait quand même un petit peu de.
C'est l'action au quotidien qui va diminuer, et donc, si elle la diminue totalement, ça peut être très grave pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, et donc l'obésité va augmenter, c'est sûr.
Dans ces cas, si c'est un manque de volonté, même sans intelligence artificielle, vous pouvez rester chez vous et être obèse, hein, vous pouvez appeler des pizzerias qui vous livrent à la maison, et au final vous avez à manger, vous restez genre dans votre canapé à regarder la télé.
C'est un changement de mode de vie, puisque avant, l'homme par exemple allait chasser pour trouver sa nourriture, déjà maintenant il va au magasin, c'est différent, et demain, si l'homme reste dans son canapé tout le temps et qu'il peut tout faire de son canapé, ça peut être très grave.
Ah oui, mais après, c'est un
problème de motivation. Maintenant, on se retrouve à avoir sur nos téléphones des applications qui permettent de nous renseigner sur notre vie, c'est-à-dire manger sainement, faire du sport, et tout ça, ça nous renseigne pour avoir déjà une meilleure vie, vivre sainement, et surtout, ça permet d'optimiser notre temps. Du coup, comme vous dites, un point de motivation, si l'intelligence artificielle vous dit qu'il faut faire du sport, essaie de vous motiver pour faire du sport, normalement ça devrait...
Non, on trouve notamment ça à la télévision.
Vous êtes en train de me dire que c'est une application qui gère en fait toute votre vie, quoi, qui vous dit « fais ci,
non,
fais ça ».
Elle laisse la liberté bien sûr à la personne, mais elle nous renseigne sur avoir un mode de vie sain, ce qui permettrait d'avoir une limitation de l'obésité et... d'être inactif.
Mais sachant que l'intelligence artificielle est vouée à devenir dans le futur apparemment plus intelligente que l'homme, elle pourrait très facilement vous manipuler, et si c'est elle qui vous contrôle votre vie, ça peut être dangereux pour l'homme, puisque c'est elle qui prend vos choix.
On va arriver sur c'est l'homme qui va, au lieu que ce soit l'homme qui guide le robot, c'est le robot qui va guider la vie de l'homme. Là le gros problème aussi.
Non, parce que l'homme aura toujours un choix de suivre les indications du robot ou pas.
Ouais,
faire manipuler.
Comment vous expliquez ce fait-là ? Parce que vu que ce sont les hommes qui créent et codent les robots, comment vous pensez que l'intelligence artificielle peut devenir plus intelligente que l'homme ?
Par exemple, sur Internet, vous pouvez facilement vous faire manipuler par les recherches avancées sur un navigateur de recherche. Lorsque vous cherchez quelque chose, il peut finir votre phrase en s'appuyant sur des recherches faites par la plupart des gens. Et donc, vous allez chercher ce que cherchent la plupart des gens et non plus ce que vous vouliez. Et voilà comment l'intelligence artificielle peut facilement vous influencer.
C'est une chose qui a été justement codée par l'homme, et après vos recherches sont influencées par ça. Il y a aussi des entreprises qui payent pour que quand on fait une recherche, ils arrivent en premier. Et ça, au final, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle qui est plus intelligente que nous et qui nous dépasse. C'est juste qu'elle a été programmée pour faire ça, pour essayer de mieux répondre à nos attentes.
Oui, donc elle peut quand même vous manipuler dans votre vie si c'est elle qui vous propose des choix et que vous y êtes.
Mais c'est chose, justement, c'est dire que finisse nos phrases, c'était quelque chose qui est voulu par l'homme, qui est voulu par Google, par toutes les sociétés comme ça qui payent pour figurer dans les recherches. Et au final, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui prend son qui prend l'initiative, indépendamment de l'homme, de faire ça. C'est l'homme qui l'a voulu.
Oui, l'intelligence artificielle ne prendra pas d'initiative, mais si elle n'avait pas été là, vous devez chercher ce que vous voulez et rien d'autre. Donc là, ça vous incite quand même à faire d'autres choses, et ça peut quand même modifier vos pensées.
Ben, quand on cherche quelque chose et qu'on ne trouve pas, on cherche autre chose. Je veux dire, si les recherches ne correspondent pas à ce qu'on cherche, on met d'autres mots et on trouve toujours ce qu'on veut.
Après, tout dépend du sujet de votre recherche.
Dans un futur proche ou lointain, on peut se poser la question, quels seront les droits des robots s'il y arrive une erreur ou un problème lié qui peut être mortel pour l'homme ou...
Le problème, je pense que plus on va y avoir de robots dans notre vie, dans notre société, en fait, il va falloir complètement revoir notre système pénal, notre système juridique. Ça va être un gros problème, en effet. On va surtout miner la question.
L'obligation de limiter de toute façon le robot, c'est une certitude, mais il pourra intervenir tout au long de notre vie, sans être
interrompu. Le problème, c'est que si par exemple le robot blesse ou tue quelqu'un malencontreusement, c'est qui qu'on condamne? C'est le robot ou c'est...
C'est le fabricant. Pour moi, ce sera le fabricant, parce que je veux dire, c'est lui justement, comme vous disiez tout à l'heure, il met sur le marché un produit, et c'est à lui de s'assurer que son produit est fonctionnel et qu'il n'est pas défectueux. Donc si effectivement il y a un accident de travail, quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui malheureusement s'est tué, c'est au fabricant que revient la faute puisque c'est lui qui l'a fabriqué et mis sur le marché.
Oui, monsieur.
Très bien que c'est quasiment impossible de lancer une fabrication de produits et que 100% de tous vos produits soient complètement fiables. Il y a toujours une marge de...
C'est à l'industriel justement de s'assurer au maximum. Après effectivement ça engendre des coûts supplémentaires, mais c'est à lui de s'assurer. C'est-à-dire que maintenant que vous achetez une voiture, vous savez très bien qu'elle va rouler pendant 100 ou 150 000 km sans avoir de panne. Et c'est extrêmement rare que ça arrive avant.
Oui, mais ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Derrière l'intelligence artificielle, si le robot peut être défectueux, ça peut arriver.
Et dans ces cas-là,
Ça fait comment ?
Dans ces cas-là, oui, mais dans ces cas-là, une voiture peut être défectueuse aussi. Je veux dire, vous pouvez avoir une pièce qui casse, avoir un accident, vous tuez, et au final, dans ce cas-là, on prend plus la voiture, on fait plus rien, on reste chez soi dans son canapé.
Messieurs, pour revenir au point des fabricants des robots, on peut aussi dire si quelqu'un hack, par exemple, les systèmes des robots, tout est hackable. Par exemple, il y en a qui ont certains hackers ont réussi à hacker quand même la NASA ou le gouvernement américain. Donc rien n'est sécurisé. Donc comment, si quelqu'un détourne un robot, si par exemple il commet des meurtres, s'il a été détourné, à qui revient la faute? Au constructeur qui n'est pas assez sécurisé ou au hacker qui a...
Ça, je ne sais pas, il y aura sûrement des exploits qui seront faits là-dessus, mais ce que je pense c'est que s'il y a une évolution de l'intelligence artificielle, des robots, il y aura forcément une évolution qui ira avec ça, de la sécurité, et pour justement éviter tous ces phénomènes de hacking et... piratage.
Tout à fait, parce que l'évolution de l'intelligence artificielle et de la robotique doit évoluer, mais on doit la contrôler. En fait, c'est ça les limites de l'intelligence artificielle, c'est vraiment le contrôle. Et il faut qu'on garde la main sur cette intelligence artificielle, tout simplement.
Mais alors aujourd'hui, lorsque l'intelligence artificielle va devenir très puissante, comment, lorsqu'un robot va faire une erreur, puisque cela peut arriver, comment on va pouvoir punir le fabricant alors qu'il n'avait pas du tout fabriqué un robot pour qu'il fasse certaines actions et que c'est la personne qui va s'en servir, qui peut très mal s'en servir. Donc ce ne sera pas forcément le fabricant qu'on va mettre en tort.
Dans ce cas-là, ce sera la personne qui s'en est servie.
Je
je peux me permettre de reprendre l'exemple de la voiture, tu disais que l'usure, c'était avant les 150 000 km et qu'il pourrait y arriver des fans avant. Et c'est comment s'est servi l'homme de la voiture. Si par exemple il a roulé assez vite pendant plusieurs années, on va retrouver des signes d'usure sur le moteur. Et là justement, ça sera la personne qui s'en est servie qui sera condamnée.
Oui, donc oui, c'est pour ça que je voulais dire, c'est que par exemple, oui, même s'il y a quelqu'un dans une voiture, il fonce dans un arbre, ça va pas être la faute du constructeur. Donc pour un robot, c'est pareil. Si le constructeur, il va le vivre forcément avec une utilisation, si vous avez aucune formation pour vous en servir, et qu'après il y a des accidents, ça peut pas être reproché au fabricant de que ce soit arrivé, que ce soit sa faute, quoi.
Oui, pour une intelligence artificielle qui agit toute seule, pas comme un véhicule lambda, c'est quand même beaucoup plus compliqué de trouver quelqu'un à mettre en tort, si ce n'est le robot.
Une intelligence artificielle qui fonctionne toute seule ne dysfonctionne pas, car c'est tout simplement des lignes de code, elle est testée, retestée, et elle ne doit pas dysfonctionner.
Oui, mais elle peut avoir un comportement face à des situations dont peut-être que l'industriel qui l'a mis sur le marché n'a pas forcément prévu cet événement-là, et du coup, par rapport à ça, l'intelligence artificielle réagit d'une façon excessive et blesse ou tue quelqu'un.
Je pense que vous pensez trop au film d'action, et c'est ça le problème. Vous pensez trop au côté science-fiction.
Non, je pense qu'il faut tous les scénarios possibles, mais le problème c'est que
on ne connaît pas aujourd'hui les limites de l'intelligence artificielle. Donc
c'est pour ça que le système pénal est à revoir au niveau de la cobotique et de l'intelligence artificielle.
Donc messieurs, je vous laisse. On va arriver sur la fin de l'émission. Je vous laisse chacun conclure sur une seule phrase qui va essayer de résumer à peu près vos arguments pour ou contre. Allez-y, monsieur.
Je pense que tout simplement l'intelligence artificielle et la cobotique sont une réelle avancée, un vrai progrès pour l'homme. Néanmoins, il faut contrôler ce système, car on peut vite être dépassé, mais pour moi c'est une réelle avancée et un vrai progrès.
Alors, pour résumer un peu tout ce qui a été dit, je pense que oui, ça peut être une avancée, mais il faut qu'elle soit contrôlée. Il faut que on ne peut pas laisser cette intelligence artificielle rentrer dans tous les. Enfin, n'importe où dans notre vie, et surtout dans notre vie privée.
Selon moi, l'intelligence artificielle et les robots sont une révolution pour les années futures, puisqu'on va avoir de plus en plus des robots qui vont assister l'homme, et ce dans n'importe quel domaine, ce qui nous permettra d'être meilleurs.
Alors, pour ma part, l'intelligence artificielle est un réel danger pour l'homme, puisqu'on ne connaît pas ses limites, et elle est vouée à évoluer encore beaucoup. Donc, si elle dépasse dans l'intelligence l'homme, ça pourrait être très dangereux pour lui.
Moi, je suis d'accord avec M. Bertrand, ça va être dans les prochaines années un très bon outil pour augmenter la productivité, réduire les troubles musculo-squelettiques et faciliter la vie quotidienne. Mais c'est vrai que cependant, l'homme va devoir bien maîtriser cet outil pour assurer une sécurité dans le cas.
Merci messieurs. Je vous remercie pour cette fort agréable émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour débattre sur le sujet d'Internet et de ses dangers. On se retrouve tout de suite avec la météo.
Au revoir.